De Québec, entrée 25$. Billets en vente par Internet en vous rendant sur le site du Fonds de solidarité, fsgpq.org. Le professeur Lauzon, 21 mars, au Petit Impérial.
Tous les sujets qui touchent l'Afrique, en musique, en culture, en rencontre. Écoutez Planète Afrique sur les ondes de CKA FM au 88,3 tous les lundis à 17h. Venez à la rencontre de l'Afrique.
Méconnu. Ça vous est sûrement arrivé, vous aussi, de vous procurer un album juste pour une pièce, une chanson, un succès qui vous a plu. Après écoute, il y a un ou deux airs que vous n'aviez jamais entendus qui attirent votre attention et qui vous restent dans la tête parce que trop beau. Bien, l'émission Méconnue est là pour ça. Musique éclectique d'artistes connus qui saura vous surprendre au détour. Animée par Claire Renie, les dimanches après-midi de 13h à 15h, sur les ondes de CKIA FM 88.3. À dimanche.
Hi, this is Buffy St. Marie. You're listening to CKIA 88.3 FM. Stay tuned.
He's a star walker, don't drink no wine. Hey, 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 hey.
Bonsoir tout le monde, vous écoutez Ainsi squatte-t-elle, l'émission féministe libertaire sur les ondes de CKIA FM à 88.3. Ce soir, c'est Marie au micro et Riff à la mise en onde et aux choix musicaux. Salut Riff.
Salut.
Et on a aussi une invitée en live et une invitée virtuelle parce que, c'est ça, on a fait une entrevue la semaine passée avec Anna Krusinski qui est sur le collectif d'édition du livre Nous sommes ingouvernables qui est paru très récemment chez Lux Éditeur. On a fait une entrevue avec elle la semaine passée à la JT et on va vous passer les meilleurs moments. Et on a en live Audrey Pernis donc, qui est coordinatrice aux communications à Vidéofemmes qui est aussi réalisatrice et membre actif de Vidéofemmes. Allô Audrey.
Salut Marie, merci de m'avoir invitée.
Ça fait plaisir. Puis tu vas nous parler notamment de la campagne de financement à Vidéofemmes et aussi de réflexion sur les femmes et le cinéma. Donc ça va être intéressant d'entendre tout ça. On va commencer en musique avec un choix musical. Riff, qu'est-ce que tu nous as choisi?
Oui, alors on va écouter Flavia Coelho avec Sunshine.
Jogado na cela, chorando, perdido. Fico esperando o momento pra dormir mais tranquilo. Esquecido, inocente, advogado, falido. Vive num 12 metros com 40 indivíduos. E todo tumulto por quatro folhas no bolso escondido. Ama de luto, chorando, dizendo um filho perdido. Culpa do sistema que não quer aceitar. Alô, a meus amigos que estão na cela. Cansado com o rosto abatido. Fica rezando que o guarda da noite não seja corrompido. Acendeu um cigarro e pensou na mulher. Será que tá na cama com um outro mané?
Dizem que o sistema carcerário tem problema. Ninguém se interessa, querem que paguem suas penas. Fumador, matador, estuprador, tudo igual. Eu vejo mais respeito lá no mundo animal.
Culpa do sistema que não quer aceitar. Alô, a meus amigos que estão na cela. Culpa do sistema que não quer aceitar. Alô, a meus amigos que estão na cela.
Tranquilo, esquecido, inocente, no 12 metros com 40 indivíduos. E todo tumulto com quatro folhas no bolso escondido. A mãe de luto dizendo perdi um filho tranquilo. Na cela falando sozinho, cansado com o rosto abatido. Fica rezando que o guarda da noite não seja corrompido. Acendeu um cigarro e pensou na mulher. Será que tá na cama com um outro mané? E faz tchurim, tchurim, flow fly. Uau, uau. Churi, churi, pro, black, uau, uau.
Tudo que ele quer é um pouco de sunshine. Tudo que ele quer é um pouco de sunshine. Tudo que ele quer é um pouco de sunshine. Tudo que ele quer é um pouco de sunshine.
À l'émission Ainsi Squat-elle, on reçoit ce soir Audrey Pernice, donc, qui est membre active de Vidéofemmes. Audrey, tu es venue nous parler entre autres de la campagne de financement de Vidéofemmes qui a lieu tout le mois de mars. Et puis déjà pour commencer, est-ce que tu pourrais nous présenter Vidéofemmes? Qu'est-ce que c'est, en quoi ça consiste?
Vidéofemmes, c'est un centre d'artistes qui existe à Québec depuis 40 ans, qui a été créé à l'époque par des femmes qui voulaient faire des films et puis qui ne trouvaient pas forcément des moyens pour parvenir à leur fin. Mm-hmm. Et aujourd'hui, Vidéofemmes a deux grands volets principaux. D'une part, de l'accompagnement, du soutien à la production. Donc là, on a des artistes femmes qui arrivent avec des projets de films, puis on va mettre en œuvre tout ce qu'on peut pour les aider. Donc on va les aider à trouver du financement, on va leur prêter de l'équipement ou leur louer de l'équipement à très bas prix, ce genre de choses. On va leur donner des marraines, des mm-hmm. artistes plus expérimentés qui vont les aider. Et puis, on a aussi tout un volet distribution. Donc là où, en fait, n'importe quelle femme réalisatrice peut nous envoyer son œuvre. Et là, notre comité les visionne. Et à ce moment-là, quand les femmes rentrent dans quand les films, pardon, mais les femmes aussi, rentrent dans notre collection, on va distribuer leurs films. Donc, on va les envoyer dans des festivals, on va les sortir en DVD, on va organiser des projections, comme il y a pu avoir dernièrement le 8 mars à Québec. Donc, ça permet de donner une visibilité, en fait, à mm-hmm. tous ces films-là. Puis aujourd'hui, au bout de 40 ans d'existence, on a à peu près 450 films dans notre répertoire. Donc, ça, c'est quasi essentiellement des films de femmes, quasi essentiellement des films de femmes québécoises. Mm-hmm. Puis c'est vraiment un beau témoignage de notre patrimoine cinématographique.
Et puis une belle ressource pour les personnes que ça intéresse, là, parce que quand, dans le milieu du cinéma ou dans n'importe quel milieu, on dit, on voit moins de femmes. Des gens disent que c'est parce qu'il y en a moins, mais c'est juste parce qu'on les voit moins. Là, c'est une question de visibilité aussi. Donc c'est intéressant. Et puis, est-ce que vous avez un site internet où on peut voir ce catalogue de, tout, de
oui,
tous les films?
Oui, bien sûr, tout à fait. Donc sur notre site www.videofemmes, vidéo singulier, femme au pluriel, .org, en fait, on a un répertoire en ligne. On peut vraiment consulter tous les films. La plupart sont classés par thème, donc c'est beaucoup de documentaires, et effectivement, donc on peut faire des recherches par thème. Il y a beaucoup d'extraits qui sont visionnables, on peut vraiment voir pas mal de choses. Puis on peut aussi commander les DVD si ça nous intéresse de voir ces films ou d'en faire la projection dans une école ou dans une bibliothèque ou autre.
Ok. Puis est-ce que tu sais, c'est une question que je te lance comme ça, mais comme ça fait quand même 40 ans d'existence à Vidéofemmes, est-ce qu'il y a une évolution ou une tendance actuelle comme différente de ce qui a été avant? Est-ce que t'as remarqué ça toi, ou est-ce que vous en parlez dans le collectif justement?
C'est sûr que si on regarde notre collection, on voit une évolution. Elle est due tant à une évolution de la programmation que à l'évolution de la manière dont nous on fait notre sélection dans notre catalogue, dans notre répertoire d'œuvres. La première évolution qu'on voit au niveau de la production, c'est vrai que les premiers films qu'on a dans le répertoire de Vidéofemmes, c'était vraiment des filles qui avaient un désir de dire quelque chose. C'est-à-dire que elles filmaient presque tout et n'importe quoi, il y avait quelque chose dont elles voulaient parler, elles y allaient, elles prenaient les caméras, les micros, elles filmaient comme ça, puis ça partait vraiment de l'intérieur, on sentait que c'était
de l'urgence.
Quand on regarde ensuite, ça c'est vraiment le début, les années 70-80, beaucoup d'urgence, beaucoup d'expérience, de délire aussi, des clips, des choses très, on sent vraiment qu'il y a une fougue créatrice là-dedans. Ensuite, il y a un peu une deuxième vague qui a beaucoup été présente à Vidéofemmes dans les années 80, même dans les années 90, de faire plus des documentaires à caractère sociaux. Beaucoup, par exemple, un film qui a été réalisé par Lise Bonenfant en 1989 sur le sida au féminin. C'était un sujet dont on parlait pas du tout à l'époque. Le sida, c'était que les hommes qui avaient ça. Puis elle a fait un film sur ça. Elle a fait aussi un film sur les femmes et l'alcool qui s'appelle La soif de l'oubli. On a eu beaucoup de documentaires sur la violence faite aux femmes. Donc ce genre de sujet vraiment très attaché à des thématiques féministes, et beaucoup des documentaires. Et puis ces dernières années, on garde la spécificité documentaire, on veut toujours vraiment présenter des films documentaires faits par des femmes, mais on prend de plus en plus, en particulier depuis 2 ans, des courts-métrages de fiction réalisés par des femmes. Et là, c'est sûr qu'on est plus ouvert sur les thématiques, c'est-à-dire qu'on veut pas juste donner la chance aux femmes qui parlent de thématiques de femmes ou féministes d'être distribuées par nous, mais par toutes les femmes, quel que soit leur sujet. Alors ensuite, on peut débattre sur les femmes parlent-elles plus de sujets de femmes dans leurs films que les hommes. Oui, probablement, des études le montrent. Et donc, effectivement, on a encore des films qui ont beaucoup des sujets féminins. Mais aujourd'hui, c'est plus tant ça notre cheval de bataille que simplement de professionnaliser les femmes artistes, de leur dire, bah oui, il y a un distributeur pour vous, oui, il y a quelqu'un qui est là pour envoyer vos films dans les festivals, vous donner une visibilité dans le milieu, vous donner une carrière, vous donner une place.
Oui, c'est ça. Puis c'est aussi de dire que les femmes sont capables de parler de bien d'autres choses que de questions de femmes, justement, ou de féminisme. Donc, ouais, bien intéressant. Et puis, je disais qu'il y a une campagne de financement tout le mois de mars. C'est dans quelle perspective que ça s'est développé, cette campagne-là? J'imagine que c'est une absence de... Enfin, un manque de fonds.
Nous, on a quand même la chance d'être assez bien financés à Vidéofemmes au fonctionnement. On est financés par la province, par le CAC, en fait, par le calque au niveau du... Pardon. Par le CAC au niveau du Canada, le CAC au niveau du Québec, et puis on est financé par la ville aussi. Mais évidemment, on a toujours, comme beaucoup d'organismes culturels, on tire un peu le diable par la queue. Hein, ça, on ne sera pas les premiers à le dire. Puis nous, on avait pour habitude d'organiser une activité bénéfice aux 2 ans, donc c'est dans ce contexte-là. Là, en particulier, on a mis l'accent pour notre campagne de financement sur ce qu'on appelle des laboratoires, donc une activité qu'on organise qui revient aux 2 ans. Et ces laboratoires, en fait, c'est pendant un temps donné. Donc la dernière fois, c'était 4 mois. Là, pour la prochaine fois, on envisagerait probablement de faire une formule plus réduite. d'avoir en fait tout un panel de jeunes réalisatrices qui sortent de l'école ou même qui sortent pas de l'école, c'est des filles qui ont quand même un intérêt vers ça, qu'on prend, qu'on forme de A à Z à faire un film, qu'on accompagne avec des marraines, à qui on donne vraiment les moyens, puis qui au sortir de ça ont fait un premier film, ont une carte de visite, puis peuvent, si elles ont le désir, commencer leur carrière comme ça, avec un produit fini vraiment de qualité professionnelle. Puis si on regarde ces laboratoires, la dernière édition c'était en 2010, puis on retrouve des filles qui aujourd'hui, mais comme je pense à Pamela Bisson ou Marjorie Champagne, qui sont des filles qui ont vraiment pris leur place dans le milieu des femmes et de la créativité à Québec, puis qui sont devenues des personnes, je veux dire, influentes dans leur pratique vidéaste, de vidéaste aussi. Et il y avait aussi, dans cette édition 2010, Julie Lambert, qui vient de décrocher le micro-budget téléfilm pour son projet Un film de chasse de filles, qui va être tourné à l'été 2013. Donc, je dis pas nécessairement que c'est grâce à Vidéofem, je veux dire, c'est grâce à ces filles-là qu'elles en sont là où elles en sont aujourd'hui, mais en tout cas, c'est des filles qui sont passées par ces laboratoires, puis on veut en faire des nouveaux, puis c'est pour ça la campagne de financement, entre autres choses. C'est pour nos projets en général, mais on a accès en particulier sur les laboratoires.
D'accord. Puis la campagne de financement, c'est sur votre site internet exclusivement ou...
C'est une campagne de financement qu'on a faite participative sur un site qui s'appelle Indiegogo, qui est en fait un site internet qui est dédié à ça, des campagnes de financement. On a eu l'exemple à Québec il n'y a pas longtemps de Gemini Pizza qui a fait une campagne de financement sur ce site-là. Donc, en fait, on se rend tout simplement sur le site internet de Vidéofemmes. Là, il y a un gros onglet Indiegogo. Donc, on peut se rendre sur le site d'Indiegogo. Puis, le principe de notre campagne de financement, c'est que on reçoit des cadeaux en fait en échange de sa participation, donc en donnant, on a essayé de faire pour tous les budgets. On sait que dans notre milieu il y a pas forcément, il y a des gens qui veulent nous soutenir mais pas forcément des grosses bourses, donc on a fait un lot en fait, une contribution à $15 où la personne qui contribue va se gagner un macaron et notre estime. La personne qui donne $40 va recevoir la compilation de courts-métrages qu'on a présenté au Cercle 8 mars et qui sont 10 courts-métrages de femmes réalisatrices de Québec. Puis c'est vraiment une super belle compilation. Bah, t'en as vu quelques-uns, Marie. Il y a vraiment des beaux films dans cette compilation. Puis pour $125, là, pour ceux qui ont un peu plus les moyens, bah, il y a les deux autres cadeaux, évidemment. Puis la chance de se gagner un iPod Touch, parce qu'on avait un projet l'année dernière de visite. En fait, un projet qui s'appelait Machination, qui était un projet d'œuvre installative dans le quartier Saint-Roch, qui intégrait des iPod Touch. Puis il nous reste 15 iPod Touch vraiment presque pas servis, là. Fait qu'on les a mis en lot pour notre campagne de financement.
Mais très bien, donc ça veut dire participer à fond pour cette campagne sur le site. Et puis je pense que vous avez aussi une activité demain au Musée de la Civilisation. Est-ce que tu peux nous en parler pour les personnes qui éventuellement sont pas super à l'aise avec Internet ou n'ont pas envie d'Internet, pourraient vous rencontrer demain au Musée de la Civilisation puis en parler avec vous?
Tout à fait. Alors de toute façon, les personnes qui sont pas à l'aise avec Internet et qui ont quand même envie de nous faire des dons, il n'y a pas de problème, vous pouvez nous envoyer un chèque, il suffit pour avoir nos coordonnées, d'appeler à Vidéofemmes au 418-529-9188. Et puis, sinon, demain soir, bah, effectivement, vous pouvez venir nous rencontrer en personne. En fin de compte, les personnes qui ont déjà contribué à hauteur de 40 ou $125 se sont gagnées un verre offert demain soir au 5 à 7 que nous organisons. Donc, c'est à 17h au Musée des Beaux-Arts de Québec, au Parc des Champs de Bataille. C'est un 5 à 7 où on va finir de lancer notre campagne de financement qui se termine le 31 mars, donc dimanche. Et c'est un 5 à 7 qui précède une projection co-organisée par Antitube et le Musée national des Beaux-Arts de Québec sur la série Grands créateurs et en l'occurrence les grandes créatrices. Et dans cette projection, on va retrouver en première mondiale le film Cumulonimbus de Paris Martin et René Méthode, qui sont des artistes en art visuel de Québec très influentes, qui sont là depuis des années, puis qui ont réalisé un court-métrage d'animation vraiment hyper beau, hyper intéressant, très touchant. très expérimental aussi. Puis ensuite, ça va être suivi du film Crée-moi, crée-moi pas de Laurent Selle, j'ai oublié son prénom, mais en tout cas, sur la création féminin, un documentaire sur la création féminin, qui risque d'être bien intéressant. Donc le 5 à 7, c'est à 5 heures, c'est gratuit. Bah, ensuite, les verres seront offerts à nos contributeurs, puis pour les autres, bah, il y aura un service de bar. Et puis la projection ensuite, me semble qu'elle est à $10 le coût d'entrée.
Ok, très bien. Donc c'est au Musée des Beaux-Arts. C'est pas au Musée de la Civilisation, comme
oui,
j'ai dit tantôt.
J'ai dit civilisation.
Non, c'est moi.
Ah,
c'est
pardon.
Moi qui l'ai dit.
Musée des Beaux-Arts, tout à fait.
Très bien. Ben, merci beaucoup, Audrey. On va continuer en musique, puis après, on va parler, pas de vidéo femmes précisément, mais de la question des femmes dans le cinéma. Donc, qu'est-ce que tu nous as choisi, Riff, pour la musique?
On va écouter Andrea Dacal avec Rojo di Dentro.
Aprendo, tropeço, remendo, emenda e conserto. Aprofundo o assunto, não nego. Mas se verso é pra chegar de você mais perto. Pô, irmão, é verdade. O coração prega peças, mas mostra a seriedade. Te testa, acontece, se deixar, tem autoridade. Por quê? Fugir do que te grita em silêncio. Pra que esquecer o que te faz estar aqui presente? Sente, sente. A rotina oprime, realidade ingrata que nos deprime. Esperam de nós o que dizer e o que pensar. Pra quem trabalhar, quem deve amar. E dizem que vão te fortalecer e ajudar. Só pra no final sua vida e habilidade poderem manipular. Choro escondido, contesto e dói. Mas não abandono o time no meu hino. No meu hino não tem caô. Sento tranquilo entre criança, tiozinho, doutor. Vaidade, tudo vaidade. Passo a bola antes que o ar acabe. Porque existem muitas misérias que aprendi a detectar. A pior é que se tem tudo que a matéria pode comprar. Mas falta sensibilidade pra viver e apreciar. E apreciar. Esquiva no jogo de dentro. Sincroniza a ginga. Porque o maior patrimônio é a mente em estado harmônico. Na hora decisiva. Esquiva. Sincroniza a ginga. Porque o maior patrimônio é a mente em estado harmônico. Na hora decisiva. Ah.
sur les ondes de CKIAFM à l'émission Ainsi soit-elle, on reçoit toujours Audrey Pernis, donc membre de Vidéofemme. Et là, tu viens nous partager une découverte que tu as faite, enfin une découverte, je sais pas si c'est une découverte tant que ça, mais en tout cas, un groupe qui s'appelle les réalisatrices équitables, qui est à Montréal et qui a fait une étude dernièrement sur les femmes dans le cinéma. Donc, est-ce que tu peux nous en parler précisément de tous les résultats de, bah, peut-être pas tous les résultats de l'étude, mais au moins est-ce que tu as l'effet saillant là, ou ce que tu as retenu?
Oui, c'est ça. Ben, c'est une étude donc, qui a été faite par les réalisatrices équitables, qui est un collectif à Montréal qui a pour but de sensibiliser le milieu et les décideurs aux différences de statut entre les réalisatrices et les réalisateurs. Là, ils viennent de faire une étude avec une sociologue qui s'appelle Anna Lupien, qui s'appelle « L'avant et l'arrière de l'écran ». En fait, depuis 6 ans qu'ils existent, ils ont déjà fait plusieurs études pour montrer la sous-représentation des femmes dans les professions du cinéma. Donc, par exemple, en montrant que de 2007 à 2012, la SODEC, par exemple, la Société de développement des entreprises culturelles, avait accordé seulement 17,7% de ses budgets à des projets avec des réalisatrices. Pour Téléfilm Canada, là, on tombe carrément à 11% sur la même période. Donc, on voit que...
Une faible proportion.
Ouais, une très faible proportion. Et là, la nouvelle étude qu'ils ont publiée, qui a été dévoilée le 4 mars, en fait, porte sur les personnages mis en scène dans les longs métrages de fiction de l'année 2011 au Québec. Et ce qui est vraiment intéressant, je trouve, dans cette étude, c'est que elle montre que, d'une part, il y a vraiment moins de films de femmes que de films d'hommes sur cette année-là. Sur 37 films, c'était seulement 7 films de femmes. Il me semble que c'est ça. Et en fait, ce que montre l'étude aussi, c'est que les hommes ont tendance à plus représenter des hommes et les femmes à plus représenter des femmes. Donc, ce qui veut dire que d'une manière générale, sur l'ensemble des personnages que l'étude appelle personnages tête d'affiche, c'est-à-dire les personnages qui ont leur nom qui apparaît sur l'affiche, donc qui sont 290 personnages sur toute cette étude, sur l'ensemble de ces personnages, c'est essentiellement des hommes. Et en plus de ça, sur les personnages féminins qu'il y a, beaucoup des personnages féminins mis en scène par des hommes sont des personnages stéréotypés en fin de compte. Donc ils répondent à des critères de beauté, de standards de beauté, d'âge, de poids, etc. Donc il y a aussi beaucoup plus de scènes de nus sans sexualité dans les films d'hommes. Donc ce que soulignent les réalisatrices équitables, puis que moi je trouve vraiment intéressant, c'est que on a un manque de représentation de femmes dans le cinéma québécois. En fait, l'ensemble, c'est pas juste les réalisatrices qui sont privées par ce système-là, c'est l'ensemble de la population québécoise qui est privée de représentation de modèles de femmes et de filles à l'écran, en fait.
Des modèles diversifiés. Ouais, donc c'est assez déprimant là de voir ça en même temps. Ouais.
Mais en même temps, c'est bon que des études comme ça sortent. La présidente des réalisatrices équitables, Martine Lepage, Lepage, lance vraiment un appel aux décideurs en disant bon ben voilà, là on vous sort les chiffres, essayez de faire quelque chose pour que ça change. Parce que ce qui est quand même intéressant de savoir dans le cinéma, le long métrage de fiction au Québec, c'est que à majeure partie, il est financé par du public. C'est-à-dire que ces chiffres-là concernent vraiment de l'argent mis par le public. Puis je veux dire, le public, les hommes et les femmes contribuent à partie égale. Les taux d'imposition sont les mêmes. Donc, voilà.
Ouais, tout à fait. Mais c'est vrai que la question des modèles de femmes, justement, dans le cinéma, se pose aussi à d'autres niveaux. Je sais pas, dans la bande dessinée, dans les livres, dans les livres pour enfants, là, c'est aussi désespérant, là. C'est souvent des modèles très, 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 très genrés, et puis, on sort pas de là, quoi. Donc, si tu veux pas que ta fille ou ta nièce ou ta petite fille, voit les images de princesse, ben faut vraiment travailler fort pour trouver des choses là qui sortent de ces cadres là. En tout cas, ben intéressante comme étude, puis on peut la retrouver en ligne sur le site.
Ouais, c'est ça, sur le site des réalisatrices équitables. Okay. Je connais pas l'adresse par cœur, enfin un petit Google là, ça va bien donner ça. Puis c'est vraiment, ils ont toutes sortes d'études là très intéressantes sur la place des femmes dans le cinéma en général.
Ouais. Donc, faudrait peut-être qu'elle parte une pétition ou quelque chose. En tout cas, je pense que ça pourrait aussi, s'il y aurait beaucoup de gens à signer ça, là, c'est sûr. Ok. Est-ce qu'il y avait d'autres choses dans l'étude dont tu voulais parler ou
Non, c'est non? ça. Je, je voulais la souligner, ouais, parce que je la trouve vraiment intéressante.
Ok. Ben, merci beaucoup, en tout cas, pour avoir appris ça. Puis on va continuer en musique. On te remercie, Audrey, d'être venue nous parler du cinéma, des femmes dans le cinéma, des réalisatrices. Donc, au plaisir. Puis bonne campagne de financement.
Merci beaucoup.
Pendant tout le mois de mars.
Merci beaucoup de votre invitation. Puis si vos auditeurs souhaitent soutenir la création féminine à Québec, en tout cas, vous pouvez toujours vous rendre sur notre site internet videofemmes.org pour faire vos dons en ligne, et vous avez jusqu'au 31 mars pour le faire. Alors on vous remercie par avance.
Ouais. Puis aussi, par la même occasion, si vous êtes tanné de voir des films réalisés par des hommes ou avec des modèles d'hommes, vous pouvez aller directement au local de Vidéofemmes qui se trouve sur Saint-Vallier-Ouest, c'est
ouais,
ça?
Oui, c'est ça, sur Saint-Vallier-Ouest, au numéro 291, bureau 103. On a là toute notre collection de DVD. Bon, j'ai dit tout à l'heure qu'on en vendait, mais on peut aussi les consulter sur place. On peut aussi en emprunter chez soi. On a aussi un centre de documentation avec toutes sortes de publications qui peuvent être intéressantes à lire à des gens qui s'intéressent à toutes ces thématiques. Donc, vous êtes les bienvenus. Mm-hmm. C'est Vidéofemmes, un centre d'artistes. Puis, on est ouvert aux artistes, mais pas que. Aussi au public.
Et donc, voilà. Une ressource indispensable pour qui aime le cinéma et qui a pas juste envie de voir des films d'hommes. Voilà.
Merci Marie.
Merci.
Là, on va continuer en musique. On va continuer en musique avec Anna Torres, Aïe Aïe Aïe.
Amor dói demais. Ai.
sur les ondes de CKIFM à l'émission Ainsi Squat-t-elle. Vous êtes toujours en onde avec Marie au micro et Riff à la musique et mise en onde qui est parti dans le reggae brésilien ce soir. C'est vraiment trippant de découvrir des nouvelles chansons. Moi aussi, je vais vous parler maintenant, donc dans la seconde partie d'émission, d'un ouvrage qui est sorti récemment chez Lux Éditeur qui s'appelle « Nous sommes ingouvernables, les anarchistes au Québec aujourd'hui ». Donc c'est vraiment un livre intéressant qui a été réalisé. Il y a beaucoup de participants et participantes à l'ouvrage et les textes sont réunis et présentés par plusieurs personnes dont Rémi Belmar-Caron, Émilie Breton, Marc-André Cyr, Francis Dupuy-Déry et Anna Krusinski. Et en fait, lors du lancement la semaine passée à Québec, qui a eu lieu à la JT le 19 mars, c'était la semaine passée ou la semaine d'avant, en tout cas, récemment à Québec, lors du lancement du livre, on a, Tiffaine et moi, interrogé Anna Krusinski, donc, qui est une des... qui fait partie du collectif d'édition finalement de ce livre-là, qui est un projet de plusieurs années, et qui a aussi écrit avec Marco Silvestro un article, un texte dans cet ouvrage. Donc le livre est bien intéressant, j'ai commencé à le lire, je peux pas vous parler de tout parce que j'en suis qu'au début, mais il aborde plein de questions sur l'histoire du mouvement, il parle aussi des anarcho-écologistes, du mouvement féministe radical, donc pour celles que ça intéresse, avec un texte par exemple qui s'intitule « Contre le patriarcat, je résiste et je me bats » de Jacinthe Leblanc. Il y a aussi un texte sur le mouvement queer avec de Miguel Goslindio. L'organisation des désirs, c'est bien le genre des anarchistes. Il y a aussi des textes sur l'art, sur en tout cas l'autodétermination des autochtones. Il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes. Donc si le sujet des anarchistes vous intéresse, si vous voulez savoir qui ils sont précisément et pourquoi ils sont si ingouvernables, ben achetez ou lisez le texte donc qui est sorti chez Lux. Et là, on va vous faire écouter une entrevue, donc l'entrevue qu'on a réalisée d'Anna Krusinski, qui est elle-même prof à Concordia, qui fait partie du collectif La Pointe Libertaire et qui a aussi été membre du CRAC, donc le collectif de recherche sur l'autonomie collective, qui est un collectif qui a réalisé des entrevues sur des collectifs libertaires au Québec, dont Ainsi Squat-t-elle. Il y a une monographie qui a été faite sur Ainsi Squat-t-elle, qui est vraiment très intéressante. Et donc Anna, elle nous parle donc de plusieurs choses. Dans un premier temps, on va vous faire écouter, on lui a posé une question sur les processus d'écriture et d'édition en fait de ce livre-là. Puis je tiens aussi à vous préciser qu'on s'excuse pour le premier micro parce que on était dans le sous-sol de la JT et il y a une machine à glace en arrière et qui fait un son assez désagréable, mais c'est juste pour le premier micro, après les autres sont épargnés. Donc bonne écoute avec Anna Krusinski.
Dans ce bouquin-là, on voit que à la moitié des collaboratrices et des collaborateurs, ce sont des femmes, ce qui est assez rare dans les écrits officiels en général, mais aussi dans le milieu anarchiste. Et on a fait vraiment un effort, en fait, dans ce bouquin, d'aller chercher des personnes qui militaient sur le terrain, qui n'avaient pas nécessairement le temps d'écrire, mais qui avaient plein d'idées, puis surtout des expériences très intéressantes à partager. Donc, on a fait un processus et de sélection, mais aussi d'accompagnement pour faciliter la rédaction. C'est pas parce que les femmes sont pas capables d'écrire qu'elles le font pas. Mm-hmm. C'est que, en fait, souvent les femmes se trouvent dans les tâches d'exécution, à faire des tâches qui sont plus dans l'ombre, et toutes ces tâches-là qui prennent beaucoup de temps. Et finalement, elles priorisent ce genre de travail sur le travail de production d'idées sur la place publique. Et c'est pas du tout parce que les femmes sont pas capables de le faire. C'est en fait une question de priorité. Mais moi-même, ça fait 15 ans que je fais de l'organisation dans l'ombre et je publie beaucoup moins que d'autres anarchistes masculins plus connus que moi parce que c'est pas une des choses que j'ai priorisées, en fait. Mais je trouve que c'est important que les idées qui sont... en fait, les pratiques quotidiennes du terrain soient documentées. Et je pense que c'est ça qu'on a réussi à faire aussi dans ce bouquin-là. C'est d'aller chercher du monde qui travaillait vraiment au quotidien puis aider à faire sortir ces idées-là. Puis il y a aussi beaucoup d'hommes qui décident que c'est comme ça qu'ils vont contribuer au mouvement, c'est en écrivant des textes. Mais bon, s'il y avait un plus grand partage des tâches et une rotation réelle des tâches, que les femmes auraient plus de temps pour écrire, je pense que ça serait vraiment une avancée importante. Mm-hmm. Mais ça voudrait dire que ceux et celles qui décident, mais surtout ceux qui décident de passer leur temps à écrire puis à publier, qu'eux aussi fassent beaucoup plus de tâches d'exécution. Mm-hmm. Donc, la tâche de mobilisation au quotidien, la tâche d'aller parler aux voisins, les voisines, le fait de d'écrire les procès-verbaux, d'écrire les tracts, de tout le travail qu'il faut faire pour qu'un mouvement puisse fonctionner, ça doit être partagé.
Voilà. Ça ne l'est pas encore.
Non, c'est ça, mais c'est un fait. Je pense qu'on peut voir aussi que si on regarde le mouvement anarchiste depuis les années 2000, la manière qu'il a évolué, chaque fois qu'il y a une vague de contestation, comme il y a eu en Québec en 2001, comme il y a eu au printemps dernier, il y a des moments où il y a une explosion d'action sur la place publique. Et c'est à ce moment-là aussi qu'il y a beaucoup de féministes et de femmes qui s'impliquent puis commencent à s'apercevoir qu'effectivement, il y a des hommes qui reproduisent des comportements sexistes et vont les confronter dans ces actes-là. On a l'impression qu'on réinvente tout le temps la roue, mais en fait, je pense que c'est un processus que chaque militant et militante doit vivre à un certain égard dans sa communauté. Ce qui est important, je pense aussi, c'est de transmettre les outils qui ont servi par le passé à travers les luttes. Puis on peut voir qu'il y a un texte qu'on a travaillé dans l'NSS, il y a en 2000, le langage de domination, qui a été utilisé dans la grève étudiante qu'on a vécue au printemps. Mm-hmm. Puis ça, je trouve ça important que les outils comme ceux-là suivent, continuent à vivre, en fait. Puis je pense que ça, c'est une des avancées là, qu'on peut voir, c'est qu'il y a des outils qui existent, qui sont repris et réutilisés. Bon. Puis qu'il y a des gens qui vont cheminer avec les conflits qu'il y a eu. Puis un jour que le patriarcat soit éliminé, on pourra parler d'autres choses. Mais entre-temps, c'est une lutte perpétuelle.
Non, c'est vraiment intéressant. Puis tu parlais que pour aller chercher des femmes, justement, il y a eu un processus d'accompagnement. Puis moi, j'étais curieuse de savoir clairement le processus d'édition, parce que vous êtes un comité d'édition, de rédaction, en fait, à quelques personnes. Puis est-ce que vous avez cherché justement à avoir une approche féministe, clairement, dans ce processus-là? Parce que quand tu parles d'accompagnement, c'est quand même une approche particulière, là. C'est pas tout le monde qui prendrait la peine d'aller voir les gens puis d'aller les aider à écrire. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus de comment vous avez fonctionné? Est-ce que vous êtes donné des balises pour l'édition?
Mais c'est intéressant parce que ce collectif d'édition-là, c'était un peu la rencontre de deux différentes manières de faire et aussi des deux différents milieux d'attache. Donc, il y avait Émilie Breton et moi-même qui ont fait partie du collectif de recherche sur l'autonomie collective, qui est un collectif de recherche qui est explicitement pro-féministe, anti-autoritaire, libertaire.
Oui, qui a d'ailleurs publié la monographie d'un Cisquatin.
Oui, effectivement, une des très belles monographies qui était disponible en ligne, en fait, sur le site du collectif de recherche sur l'autonomie collective. Mm-hmm. Et donc, nous, au CRAC, on a toujours eu ce souci-là des processus, clairement. Et la recherche qu'on a faite, on a essayé de faire ça de manière participative tout le long, en intégrant des principes et des valeurs féministes, anti-autoritaires. Et il y a aussi la gang plus associée à Francis Dupuy-Léry, Marc-André Cyr, qui c'est pas pour dire que c'est pas du monde féministe, c'est aussi du monde pro-féministe, mais qui ont une autre manière de fonctionner généralement, c'est de l'écriture individuelle. Donc, on s'est rencontrés, puis je pense que la rencontre a été intéressante dans le sens que ça, il y a des réseaux qui se sont... qui n'étaient peut-être pas des réseaux qui se fréquentaient au quotidien, qui ont été un peu... se sont rapprochés. Puis, ça fait en sorte que le processus de rédaction, en fait, a été différent qu'il aurait été si le CRAC n'avait pas été impliqué. Je pense que le fait que le CRAC existait, qu'on avait 125 entrevues qu'on avait faites, qu'on avait toute une base de données, qu'on avait fait un processus, ça a influencé la manière que le collectif d'édition a fonctionné. à mon avis. Ça n'a pas été dit explicitement, nous allons intégrer les processus féministes dans notre fonctionnement, mais c'est de par notre expérience, je pense, qu'on a pu influencer le processus de rédaction là. Je pense qu'il y a aussi le fait que Marie-Ève Lamy, qui était aussi dans Némésis dans le temps, qui est aujourd'hui Alix éditeur, qui a été celle qui nous a accompagnés, elle a fait un travail hallucinant de révision des textes, puis nous a vraiment suggéré plein de manières d'améliorer nos textes. Donc on a retravaillé les textes avec les auteurs. Puis ça elle avait une ouverture aussi, ce souci de faire en sorte que tout le monde, même s'ils sont poignés dans l'organisation au quotidien, puisse publier leurs idées. Donc
Vimbom fan
On va poursuivre l'écoute de l'entrevue enregistrée avec Anna Krusinski donc la semaine passée dans le cadre du lancement du livre Nous sommes ingouvernables.
Remarquez au sujet des thèmes qui sont abordés, là. Et souvent, on voit comme les hommes qui parlent de théorie générale et de revues historiques, tout ça, puis les femmes qui se concentrent peut-être plus sur des thèmes de féminisme ou avec leur expérience plus spécifique. Ça n'a pas l'air d'être le cas à première vue, en tout cas, en feuilletant vraiment rapidement là, la table des matières. Est-ce que c'était un choix qui était comme délibéré ou.
Non, en fait, on n'a pas. On a eu un souci d'aller chercher une diversité de monde là. Ça fait partie de nos soucis. Puis je pense que le réseau du collectif de recherche, il y a beaucoup de femmes puis de queer puis de personnes impliquées aussi dans les réseaux antiracistes et anticoloniaux qui sont rattachés à ces réseaux-là. Ça on le voit ça dans le bouquin. C'est intéressant. Moi, personnellement, ça fait 15 ans que je fais de l'organisation de terrain et que je publie très peu. Puis quand je publie dans des collectifs. Et c'est récemment, je me suis dit qu'il faut que je prenne un break de l'organisation de terrain puis qu'il faut que je lise. Parce que je sens que je manque de théorie dans ma capacité de même travailler les idées. Donc, c'est un peu un choix qui m'est dans les derniers mois, en fait, qui fait que je pense que je vais prendre un tournant pendant les prochaines années, d'essayer de tu sais, je suis une femme, je suis une féministe, je suis une anarchiste, je suis intelligente, là. Pourquoi j'ai pas le temps de lire puis d'écrire? Ça n'a pas de sens, là. Je passe tout mon temps à faire de l'organisation dans mon quartier, tu sais. Donc, personnellement, je vis ça. Donc, je comprends les autres féministes et les femmes qui vivent ça, puis les gens qui s'organisent au quotidien. Puis, je pense que c'est important qu'on prenne le temps de s'asseoir, de lire, puis de travailler nos idées. Puis que si ça veut dire qu'il y a moins d'organisation de base qui se fait pendant quelques mois, bon, tant pis. Puis sinon, que les gars ramassent un peu là où les filles ont laissé, laissé la place. Hein, mais en même temps, je pense que le bouquin est beaucoup plus riche parce que il y a cette rencontre des différentes tendances anarchistes qui souvent sont pas réunies dans le même bouquin ou le même journal ou le même dépliant ou le même bulletin.
Un des trucs que je remarque au premier abord, c'est de voir du monde qui sont, tu sais, dans le milieu avec lequel on est plus familier à Québec, qui est, tu sais, communiste libertaire et, tu sais, assez classique, ben souvent des gars, puis, tu sais, c'est pas mal tout le temps du monde blanc, hétéro, ou en tout cas qui est pas nécessairement impliqué dans des luttes, tu sais, féministes ou queer, puis en même temps voir des textes, là, mais ça, j'ai regardé vite, là, mais, tu sais, voir des textes plus ancrés dans les luttes anticoloniales, puis tout ça, c'est comme pas des... C'est pas un mixte qu'on voit souvent. Là.
C'est ça.
Je trouve que c'est super intéressant.
C'est ça. C'est ça que je trouve intéressant. Puis même la conclusion qu'on a écrite en collectif d'édition, là, T'sais, c'est comme si Francis avait écrit ou si moi je l'avais écrit, ça aurait été vraiment différent. Mm. Mais là, c'est un peu la rencontre un peu de différentes manières d'analyser notre propre mouvement. Puis je trouve que ça fait quelque chose de plus intéressant que ça aurait été juste lui ou juste moi. T'sais. Mm. Donc ça, je trouve ça le fun, ce processus-là, mais ça n'a pas été sans embûches. Mais je pense qu'on a appris... T'sais, moi, j'ai appris des choses sur des réseaux que je connaissais moins. Mm-hmm. Puis je pense que Marc-André, puis Francis et Rémi aussi ont appris ce qui se passait dans les réseaux féministes, queer, antiracistes, anticoloniaux, plus anti-oppression qu'ils étaient habitués. Donc, ce processus-là est intéressant.
On va continuer à écouter l'entrevue avec Anna Krusinski et cette fois elle va nous parler finalement du texte qu'elle a écrit avec Marco Silvestro sur l'anarchisme au quotidien et dans les quartiers, donc les rapports avec les liens de voisinage, la vie urbaine et tout ça. Donc on écoute Anna Krusinski.
Marco Silvestro et moi, c'est vraiment un texte basé sur l'expérience de la Pointe Libertaire et du Centre social autogéré à Pointe-Saint-Charles. Et ça, c'est un peu l'argument qu'on essaie d'amener, c'est que l'ancrage territorial, c'est vraiment important pour qu'on puisse faire cheminer les idées anarchistes au-delà de la petite clique ou la petite culture anarchiste relativement fermée qui est difficile d'accès. Puis on partage un peu ces expériences-là de travail, de quartier, de liens avec nos voisins, nos voisines, des liens de proximité. Puis des choses aussi pour des féministes qui sont importantes, je pense, c'est que le travail de proximité, bon, dans les grandes villes, peut-être qu'ici à Québec, je ne sais pas si vous vivez ça, mais chez nous, c'est très difficile de se déplacer avec ta famille, ton enfant, tout ça, loin dans la ville pour aller à des réunions. Puis si ton militantisme est proche de où tu habites, puis aussi les lieux où tu fréquentes, puis les réseaux que tu développes de solidarité avec les gens qui ont d'autres enfants ou des gens qui peuvent s'occuper des enfants, puis tout ça, ça aide vraiment, ça libère du temps pour que les femmes puissent s'impliquer dans les luttes. Mm-hmm. Puis moi, je trouve ça vraiment très important parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui réalise pas le temps que ça peut prendre pour voyager, puis de faire garder tes enfants, puis tout ça, si les places sont pas, les lieux sont pas accessibles aux enfants aussi. Puis dans notre quartier, on a réussi quand même à créer des espaces qui sont où les enfants sont les bienvenus. Donc, puis c'est pas juste les parents qui vont s'occuper des enfants. Donc, de plus en plus, avec le temps, les gens qui n'ont pas d'enfants, ils ont réalisé que c'est une responsabilité collective. Puis que c'est pas juste les parents qui vont s'occuper des enfants pendant la réunion. Donc là, il y a des gens qui le font. Même chose au niveau de la nourriture. Tu sais, il y a plus une rotation au niveau de qui prépare la nourriture. C'est pas toujours le même groupe de personnes qui le prépare. Je pense que en fait, ça c'est une partie de ce qu'on essaie de développer, mais aussi les rapports avec les autorités, qui est différent. Parce que quand même, t'es dans une grande ville, ton rapport à la police, ton rapport aux politiciens. Est très
distant.
Mm-hmm. Puis ça fait que c'est souvent plus facile de juste être dans des positions de conflit, mais des postures froides, puis on dirait qu'ils mènent nulle part finalement. Mais quand tu es plus proche, les rapports avec la politique puis la police, on dirait que le fait qu'on a des visages associés, ça fait que les conflits deviennent personnalisés plus de manière plus intéressante, dans le sens que on les interpelle puis il faut qu'ils répondent. C'est plus que par des niaiseries qui peuvent être dites par les médias de masse. T'sais. Donc on va voir le politicien ou on va voir le flic dans la rue, puis il va avoir ce rapport-là de voisin de voisine en plus du rapport du rôle que les gens jouent. Puis ça crée des rapports qui sont plus humains, mais aussi qui force les gens qui sont en position d'autorité de répondre un peu de leurs actes, en fait.
Pas se protéger derrière l'anonymat.
C'est ça. Puis c'est ça que, tu sais, je pense que c'est quand on parle d'anarchisme en tant que processus et non pas juste en tant que résultat final, tous ces rapports-là conflictuels ou de coopération, pas nécessairement avec les autorités, mais avec les voisins et les voisines, ces rapports-là qui si on réussit à les transformer, puis si on réussit à créer des rapports de force avec nos voisins et nos voisines, qu'on peut faire finalement basculer les rapports de pouvoir dans un lieu, dans un certain territoire. Donc, bon, c'est un peu ça la théorie, mais en pratique, on peut voir qu'on réussit à gagner des petites choses. C'est dans notre quartier, on a un jardin qui s'appelle le Jardin de la Liberté maintenant, que, tu sais, nous, on a c'était de l'herbe à poux, on l'a occupé, on l'a transformé en Jardin de la Liberté. Et après X nombre d'années de lutte, la ville, l'arrondissement a dit « OK, on va le zoner vert ». Mais ils refusaient pendant des années. Là, la murale, la même affaire. Tu sais, un mur aveugle. Ça fait 30 ans qu'on revendique, que le quartier revendique que ça soit transformé en murale pour que ça soit moins une espèce de problème psychologique. C'est une espèce de gros mur en béton en plein milieu du quartier. Puis nous, on s'est dit, bon, on va juste le faire, la murale, là, on va la faire. Puis on s'est fait interpeller, on s'est fait arrêter. Puis finalement, on a réussi à négocier avec le CN de faire une murale sur ce mur-là, finalement. Donc là, on a une murale politique qu'on va faire sur ce mur-là. Le centre social autogéré, on a un bâtiment qu'on a exproprié, un bâtiment de 100 000 pieds carrés. On a gagné $1 million pour le rénover. T'sais, donc c'est une propriété collective qui a été arrachée au capitalisme. C'est des choses qu'on n'aurait pas pu faire si c'était pas ancré territorialement, puis qu'on n'a pas travaillé avec nos voisins, nos voisines, nos alliés. Donc, anarchistes, oui, mais qui travaillons à l'intérieur de avec nos voisins, nos voisines, finalement, puis en proximité, en se donnant des ressources pour qu'on puisse le faire. Puis le centre social autogéré a vraiment su prendre sa place là, dans le quartier, au niveau de des rapports avec les groupes communautaires plus traditionnels dans le quartier, là, avec le temps, parce qu'au début, là, les deux premières années avant le squat, là, avant 2009, là, il y a eu les deux ans qu'on a fait où le centre social autogéré était sans abri, là, puis circulait, tu sais, faisait ses activités dans la rue, puis dans les groupes populaires et tout ça. Ça, tout ce processus-là, on voulait que ça mène à une plus grande ouverture des gens du quartier à l'idée du squat, parce qu'on sait qu'une des problèmes avec les squats, c'est que souvent ils apparaissent dans un quartier, puis après ça, les rapports avec les voisins et les voisines, c'est une des choses les plus difficiles. Même qu'on s'est dit, bon, si les voisins et les voisines sont déjà familières avec ce qu'on veut faire, ça va être plus facile. Mais puis là, après l'éviction, il y a eu quand même beaucoup de sympathie. Mais après ça, toutes les années qu'on a travaillé avec les groupes communautaires pour gagner le bâtiment 7, on a vraiment réussi à démontrer finalement qu'on n'était pas une gang des cervelés, là, puis qui était juste pour la casse, là, tu sais, puis qu'on avait des projets de construction aussi, puis qu'on pouvait travailler avec le monde. Puis des fois, ça voulait dire un petit peu des compromis, mais on a quand même réussi à maintenir une certaine autonomie, je pense, d'action, qui est importante, puis aussi une autonomie de pensée, de critique, là aussi, qu'on a réussi à maintenir. Mais je pense que si on pouvait avoir plus de quartiers où il y avait des anarchistes qui intervenaient sur le territoire, sur des questions de gentrification, de développement urbain, tout ça, ou régional, je pense que ça pourrait porter des fruits, en fait.
Et voici que se termine l'émission Ainsi squat-t-elle à CKIA FM sur les ondes de CKIA FM, je me répète un peu. Donc Ainsi squat-t-elle, l'émission féministe libertaire à CKIA, et on va vous parler de deux activités qui ont lieu, dont une demain 28 mars, donc à 13h30 au centre des femmes de la basse ville au 380 Saint-Vallier Ouest, une conférence ou en tout cas une présentation intitulée qui pose la question: pour quelles raisons les femmes sont-elles pauvres? Donc j'imagine que ça va être une conférence intéressante avec Elisabeth Germain, donc qui était venue aussi ici à l'émission il y a deux semaines. Puis une autre activité mercredi prochain, le 3 avril, à l'AJT à 19h, donc au 295 Dorchester, l'AJT, et c'est une mise à jour sur la prostitution, donc dans le cadre des mercredis AJT. Voilà, il y aura sûrement aussi la page noire qui sera ouverte, donc vous pourrez acheter tous les livres que vous voulez, et notamment « Nous sommes ingouvernables », donc le livre dont on a parlé tantôt avec Anna Krosinski, qui est paru chez Lux Éditeur. Voilà. Bah, merci beaucoup Riff pour la mise en onde, la sélection musicale. Marie. Et puis on se retrouve dans 2 semaines. D'ici là, bonne fin de soirée et bonne écoute de Sekaya.
Vous voulez partir en cavale sonore?
À Giramundo, on vous parle, on vous chante, on vous raconte la musique, la politique et la culture.
À travers du hip-hop touareg,
de la valse mongole,
du ska japonais, du reggae suédois.
C'est un happening intergalactique, c'est à Giramundo tous les samedis soirs à 19h sur les ondes de Sekaya.
Tendez l'oreille.
On parle de vous.
On parle des autres.
On parle de nous.
Vous êtes locataire, ce message est pour vous. Problème de logement, besoin d'informations sur vos droits, en colère face aux abus des propriétaires, le bail est là pour vous. Depuis plus de 40 ans, le Bureau d'animation et information logement lutte pour les droits des locataires à Québec. Locataire, faut s'organiser. Vous croyez que le droit au logement est fondamental? Vous cherchez un groupe populaire où vous impliquer? Devenez membre du bail. 418-523-6117 ou www.lebail.qc.ca.
Heute habe ich das Tag gesehen.